من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: العبودية قسمان: عبودية عامة وهي لربوبية الله عز وجل، وفيها يشترك سائر الخلق من مؤمن وكافر وبار وفاجر، الكل مفتقر إلى الله، عبيد له مربوب مدبر. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما العبودية الثانية فهي عبودية خاصة، وهي لألوهيته عز وجل ولعبادته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه. ولذلك أضافها الله عز وجل إلى اسمه الرحمن، إشارة إلى أن هؤلاء الأتقاء الأبرار ما وصلوا إلى هذه العبادة وإلى هذه العبودية إلا بسبب رحمة الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل صفاتهم، وذكر أن صفاتهم من أفضل الصفات، وأن نعوتهم من أعظم النعوت، فقال جل وعلا: أنهم يمشون على الأرض هونا، أي ساكنين متواضعين لله ولعباده. فالله جل وعلا يحب من عبده التواضع عند أمره امتثالا، وعند نهيه اجتنابا، والشرف هذا ينال بالخضوع لله والتواضع لعباده. ولقد قال الله جل وعلا موجها خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. فالتواضع أيها الأخيار سبب للرفعة في الدنيا والآخرة، وسبب للعدل والألفة والمحبة في المجتمع. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخفض الجناح للمؤمنين، ليكون بذلك قدوة للعلماء وللأمة جمعاء. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فقال: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالتواضع أيها الأخيار، المتواضع منكسر القلب لله عز وجل، خافض جناح الذل والرحمة للمؤمنين، لين الجانب لهم، لا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه. وهذا الخلق العظيم إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويقربه ويكرمه. لذلك كان لزاما أن يكون التواضع من أخلاق الأنبياء وشيم النبلاء وسمات الأتقياء. فهذا داود عليه السلام يأكل لكسب من كسب يده، وهذا موسى عليه السلام يرفع الحجر لامرأتين أبوهما شيخ كبير، وهذا زكريا عليه السلام كان نجارا، وهذا عيسى عليه السلام يقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنما يكفيك قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنبينا صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، إمامهم، رقيق القلب، كان رقيق القلب، كان خافضا جناحه للمؤمنين، كان بهم رؤوفا رحيما، يحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الدهر. ركب الحمار، ركب الحمار وأردف عليه، ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى ذراع أو كراع. فكيف كان تواضعه صلى الله عليه وسلم؟ فأما تواضعه في نفسه فقد أخرج الحاكم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فأخذته الرعدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون على نفسك، هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشارك أصحابه في العمل، ولا سيما العمل الشاق، كما روى البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغبر بطنه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم رعيه الغنم وتحدثه بذلك، كما روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. فقال له أصحابه رضي الله عنهم وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال أهل العلم رحمه الله رعي الغنم وظيفة ارتضاها الله لأنبيائه، ولعل السر في ممارسة الأنبياء لها أنها تربي على التواضع وتزيد الخضوع لله وتربي على الصبر وتحمل المشاق إلى غير ذلك من الحكم البليغة. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم معاملته مع الضعفاء والأرامل والمساكين، كما أخرج الحاكم في المستدرك من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم، فلم تكن نبوته صلى الله عليه وسلم تشغله عن ذلك، ولم تكن مسؤولية أمته تمنعه من ذلك، ولا كثرة الارتباطات والأعمال أن يجعل للفقراء والمساكين والضعفاء حظا ونصيبا من الزيارة واللقاء. فأين نحن يا عباد الله من هذا الخلق العظيم؟ أين أنتم يا أيها الأغنياء من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فإذا أردتم حلاوة الإيمان أن تطعموها فهذا هو السبيل إليها فلا تخطئوه. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الأطفال والصبيان، كما أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. بل أخرج البخاري من حديث أنس أيضا أنه قال كانت أمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنطلق به حيث شاءت. الله أكبر الله أكبر. والله إنك لترى في عصرنا هذا من يترفع عن السلام على الرجال من المتقين فكيف يكون شأنه مع الصغار والأطفال. إنك لتجد بعض ضعفاء الإيمان يأنف من أن يسلم على من يرى أنه أقل منه درجة ومنصبا، لا يسلم عليه، وما يدريه لعل ما بينهما عند الله كما بين السماء والأرض، لعل هذا الذي تقلل من شأنه أعظم قدرا عند الله منك. بل كن كما قال بعض السلف رحمهم الله، إذا رأيت من فاقك في العمر فقل هو خير مني لأنه أطاع الله أكثر مني، وإذا رأيت من هو أقل منك سنا فقل هو خير مني لأنه عصى الله أقل مني. ولئن نظرت إلى أحد من المسلمين ورأيت أن لك فضلا عليه أو أنك أفضل منه فاعلم أنك على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعمل في بيته، كما أخرج أحمد في المسند من حديث هشام بن عروة عن أبيه رحمه الله قال: سأل رجل عائشة رضي الله عنها فقال: يا عائشة، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا؟ فقالت رضي الله عنها: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه، وكان يعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. فلم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم يشغل أحدا بخدمته، بل كان يتكلف بهذه الأشغال ويباشرها بنفسه، بل زيادة على ذلك أنه كان هو في خدمة أهله. كما روى البخاري أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما كان يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت رضي الله عنها: كان في مهنة أهله، أي كان في خدمتهم. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا من فراغ في وقته، ولكن كان يحقق العبودية لله عز وجل بجميع أنواعها وأشكالها وصورها. وهذا ما بيناه لكم صورة قليلة من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أشرنا إلى شيء يسير من ذلك، نشير الآن إلى تواضع خير الرجال بعد الأنبياء وأفضل الأجيال، أعني بهم سلف هذه الأمة رحمهم الله. فإليكم شيئا اقتطفناه من أحوالهم وأقوالهم. قال عروة بن الزبير رحمه الله: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عاتقه قربة ماء، فقلت: يا عمر، يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال عمر رضي الله عنه: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، الوفود عظماء القبائل وأمراؤها، فلما أتوني وجدت في نفسي نخوة، يعني فخر، فأردت أن أكسرها، لذلك تحملت هذه القربة. وقال الحسن رحمه الله: أتدرون ما التواضع؟ التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له الفضل عليك، إلا رأيت له الفضل عليك. ومر رجل متكبر بمالك بن دينار رحمه الله وهو يتبختر في مشيته، فقال له مالك: أما علمت أن هذه المشية يكرهها الله أو يكرهها الله إلا بين الصفين؟ فقال الرجل المتكبر: أما تعرفني؟ أما تعرف من أنا؟ فقال مالك رحمه الله: بلى، أعرفك، أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فقال الرجل المتكبر بعد أن انكسر: والله لقد عرفتني حق المعرفة. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: ما رأيت أحسن من رجل غني يجلس بين يدي فقير. وقال الشافعي رحمه الله: رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الله حتى تعلمه أنه ليس لك فضلا بدنياك عليه. وقال خلف بن تميم رحمه الله: رأيت سفيان الثوري وهو بمكة وقد كثر الناس عليه، فقال سفيان رحمه الله: إنا لله، أخاف أن يكون الله قد ضيع هذه الأمة حيث احتاج الناس إلى مثلي. هذا سفيان الثوري يقول هذا. ولما جاءت جماعة إلى معاوية بن الأسود يطلبون منه أن يدعو الله لهم، قال: اللهم ارحمني بهم ولا تحرمهم بي، اللهم ارحمني بهم ولا تحرمهم بي. وقال رجل لميمون بن مهران: يا أبا أيوب، ما زال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. فقال ميمون رحمه الله: اقبل على شأنك، ما زال الناس بخير ما اتقوا ربهم. وقال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا خير الناس ويا ابن خير الناس. فقال عبد الله رضي الله عنهما: ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. وقال المروذي لأحمد بن حنبل رحمهما الله: يا أحمد، يا أبا عبد الله، والله إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمطار في جميع المدن. فقال أحمد رحمه الله: يا أبا بكر، إذا عرف الرجل قدره، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. فيا أيها المؤمنون، يا أيها الأخيار، اعلموا رحمكم الله أن من اتقى الله جل وعلا تواضع له ولعباده، وأن من آثر الكبر على التواضع كان فاقدا لتقواه، ركيكا في دينه، مشتغلا بدنياه. فالمتكبر وإن رأى نفسه فوق الناس وضيع لا قيمة له، والمتواضع وإن رؤي بين الناس وضيعا فهو عند الله عظيم القدر. ولقد صدق من قال: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر إلى صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فمن استشعر التواضع وعاشه وذاق حلاوته وطعمه كره الكبر وبواعثه، وأحب أهل التواضع ورأف لهم، وزاد الله له في درجاته، ورفع الله له وجعل الله له رفعة في الدنيا والآخرة، وقربه إليه وشرفه وأحبه. جعلني الله وإياكم من عباده المتواضعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et les serviteurs, les adorateurs du très miséricordieux, du tout miséricordieux, sont ceux qui marchent sur terre avec modestie. Et lorsque les ignorants leur adressent la parole, ils leur disent paix. Sachez comme le dit Cheikh Sa'di rahmatullahi alayh, que la servitude, l'adoration, du moins la servitude c'est un terme plus exact, se divise en deux catégories. On a une servitude générale qui concerne la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans celle-ci, toutes les créatures se rassemblent, qu'ils soient croyants ou mécréants, qu'ils soient pieux ou non. Tous ceux qu'Allah ta'ala a créés sont ses serviteurs. Allah ta'ala a dit, « In kullu man fis samawati wal ard » Tout ce qu'il y a sur terre et dans les cieux n'est que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième sorte de servitude, c'est la servitude qui est liée à la visibilité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à son adoration et à sa miséricorde. Et c'est l'adoration des prophètes et des pieux. Et c'est la servitude à laquelle est fait référence dans le verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié cette servitude à un de ses noms qui est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, pour montrer qu'on ne peut arriver à ce degré de servitude que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a donné de nombreux qualificatifs de ses serviteurs d'Allah subhanahu. Comme quoi ils ont les meilleurs attributs et les plus grands qualificatifs. Dans le verset, Allah il dit qu'ils marchent sur terre avec en toute modestie. Hein, haunan. Là, ça fait référence au sujet abordé aujourd'hui, at-tawadhu, c'est la modestie, c'est le fait de se rabaisser. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que ses serviteurs se rabaissent et manifestent leur modestie lorsqu'ils accomplissent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et lorsqu'ils s'écartent de ses interdictions. Et un honneur tel que celui-ci ne s'obtient qu'en se rabaissant à Allah Azza wa Jal et à ses créatures. Être doux avec eux, patienter à leur mal et le supporter. Allah Ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, il dit « Waqfiz janahaka lil mu'minin » yani, et rabaisse ton aile devant, envers les croyants. C'est-à-dire, sois doux avec eux, humble et modeste. Le prophète alayhi salatu wassalam a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être modeste et humble envers les croyants, afin qu'il soit un exemple pour les savants, les prédicateurs et la communauté entière. Comme Muslim y rapporte, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète dit alayhi salatu wassalam, une aumône ne diminuera jamais ton argent. Et Allah ta'ala rajoutera aux serviteurs de la fierté s'il pardonne aux gens. Et lorsque quelqu'un se rabaisse pour Allah, Allah ta'ala il l'élève. Et dans le hadith, le prophète dit alayhi salatu wassalam, Allah m'a révélé à ce que vous deviez vous être modestes les uns envers les autres, jusqu'à ce que personne ne fasse de tort à un autre ou que personne ne soit fier par rapport à un autre. Le modeste, mes frères, il est humble envers son frère. Il est humble envers les membres de sa communauté. Il ne voit pas qu'il a un prestige sur un autre. Non, au contraire, il voit que les autres ont une grâce sur lui. Il voit que les autres sont meilleurs que lui. Et ce comportement, la modestie, Allah Ta'ala ne le donne qu'à ceux qu'il aime, à ceux qu'il rapproche de lui et à ceux à qui il fait honneur. Et un tel comportement d'emblée doit faire partie des comportements des prophètes et des messagers. À titre d'exemple, Moussa alayhi salam a été aidé deux femmes qui étaient chargées de l'eau pour leur père qui était vieux. Et il a enlevé une pierre qui gênait l'entrée du puits. Et Zakaria alayhi salam, il était menuisier. Et Daoud alayhi salam ne mangeait que de l'argent qu'il gagnait en travaillant. Et Isa alayhi salam a dit comme dans le Coran, et je suis pieux envers mes parents, envers ma mère. Et Allah n'a pas fait de moi un injuste et un tyran. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te suffit le verset où Allah ta'ala il dit, il y a certes pour vous, dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un très bon exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui évoque Allah beaucoup. Le prophète alayhi salatu wa sallam était l'imam des modestes et des pieux. Il était humble envers sa communauté. Il avait le cœur doux. Israël envers sa communauté. Il aidait comme il pouvait. Il se privait pour donner. Il passait le premier le salam aux gens qu'il rencontrait. Il répondait à l'invitation qu'on lui faisait, même si c'était pour manger des pieds de moutons ou bien de bêtes. Quelque chose dans lequel il n'y a rien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est monté sur les ânes et il a fait monter avec lui des gens. Hein, quand on regarde autour de nous depuis toujours, les gens qui ont le pouvoir ont toujours tendance à prendre les meilleures montures. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui, avait un âne sur lequel il n'éprouvait aucune honte à monter. Alors, comment le prophète, alayhi salatu wassalam, était-il humble et modeste? On a de différents et de nombreux exemples dans la sunna. Parmi ceux-là, le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, était humble en lui-même. Il était modeste en lui-même. Il y a un homme qui est venu parler au prophète, alayhi salatu wassalam, le jour de la conquête de Mecca. Et imagine, tu parles au prophète, alayhi salatu wassalam. Alors il a été pris de tremblote, il s'est mis à trembler. Tellement il était impressionné par le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors le prophète lui dit, calme-toi, je ne suis que le fils d'une femme de Quraysh qui mange le qadid. Un qadid, c'est la viande séchée. Vous voyez comment on fait l'Eid et qu'on met la viande à sécher, c'est ça le qadid. Je ne suis que l'enfant d'une femme de Quraysh qui mangeait cette nourriture-là. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi sa modestie, c'est que lorsque les compagnons faisaient un travail, il participait avec eux à ce travail, même s'il était difficile. Par exemple, ce que le Bara ibn Az ibn rapporte, que le jour de Khandaq, une des batailles dans laquelle ils ont creusé un fossé, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui aussi portait la terre avec les sahaba, jusqu'à ce qu'il s'est rempli le ventre de sable. Et en même temps, il disait, Wallahi, sans Allah, nous n'aurions pas prié, ni fait l'aumône, ni jeûné. Ya Allah, descends sur nous une quiétude, et raffermis nos pas lorsque nous rencontrons l'ennemi. Ya Allah, ceux-là, yani les ennemis, se sont rebellés contre nous. Si eux, ils veulent une fitna, nous, on n'en veut pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi sa modestie, est qu'il était berger. Il était berger, il s'occupait des moutons. Et en plus de cela, il le disait aux gens. Il n'en éprouvait pas de honte. Comme Sahl ibn Hanif, non, comme Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte, le prophète va dire, alayhi salatu wassalam, Allah n'a pas envoyé un prophète sans qu'il n'ait été berger. Alors le sahaba radiyallahu anhu nous dit, ya Rasulallah, toi aussi? Il a dit, moi aussi. Quand j'étais à Mecca, je m'occupais des troupeaux des gens de Mecca pour quelques pièces. Les savants, ils ont dit que la fonction de berger est une fonction qu'Allah a agréée pour ses prophètes. Et les savants ont donné plusieurs explications à cela. Ils ont dit que cette fonction éduque l'âme et l'amène à la modestie et au fait d'être humble. Elle éduque l'âme vers la patience. Elle éduque l'âme vers le fait de patienter et de supporter les choses difficiles. Et aussi elle éduque l'âme à se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi la modestie du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était le comportement qu'il avait avec les faibles, avec les pauvres, avec les veuves et autres. Comme il rapporte, Sahl ibn Hanif radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, il allait visiter les pauvres. Il allait les voir chez eux. Il allait visiter les malades de parmi eux. Et il assistait à leur janaza, à leur prière mortuaire. Sa prophétie ne l'a pas empêché d'aller voir les gens en bas d'échelle sociale. Sa responsabilité dans sa communauté ne l'a pas empêché d'aller voir ces gens-là, ni tous les liens qu'il avait avec les gens, ou bien les rapports, ou bien les occupations, rien de cela ne l'a empêché à attribuer aux pauvres et aux malades une part de visite et de rencontre. Où on est nous? Où on est nous? Qu'on se compare, qu'on se mette à ce niveau. Hein? Est-ce qu'on trouve le temps d'aller voir les pauvres? Est-ce qu'on trouve le temps d'aller voir les malades? Est-ce qu'on cherche à savoir s'il y a des veuves près de chez nous? Est-ce qu'on cherche à savoir s'il y a des orphelins près de chez nous? La douceur de la foi, mes frères, celle qui amène à des comportements tels que celle-ci, Si on veut la goûter, si on veut la savourer, eh ben c'est dans nos chemins comme ça qu'on la trouve. Alors ne les ratez pas. Alors ne les ratez pas. Et parmi sa modestie, sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il allait passer le salam aux enfants et aux jeunes. Comme il rapporte Anas radiallahu anhu, il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il allait visiter les Ansar, hein, les Médinois, et il passait le salam à leurs enfants. Et il leur essuyait la tête. Et donc Bukhari Anas toujours il rapporte que tu voyais des fois une jeune esclave, une petite fille de la ville de Médine, qui prenait le prophète par la main, alayhi salatu wassalam, et qui courait avec lui, qui l'emmenait où elle voulait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'empêchait pas, il a laissé la guider. Allahu Akbar. La créature qu'Allah Ta'ala préfère le plus dans cette création. La meilleure des créatures. Il laisse une petite fille, esclave, lui prendre la main et l'emmener où elle veut. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Lâche-moi, j'ai des trucs à faire. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Quand tu vas voir les gens et qu'à côté d'eux, il y a leurs enfants et tu ne les regardes même pas. Voilà, aujourd'hui, on vit une époque bizarre. On voit des gens, ils s'élèvent au-dessus des gens pieux parmi les hommes. Il ne veut pas leur parler ni leur adresser la parole. Comment il doit être celui-là avec les enfants et les jeunes? On voit des gens qui ne passent pas le salam à ceux dont ils croient qu'ils sont moins que lui en prestige et en degré. Mais il ne sait pas. Il se peut qu'entre les deux, auprès d'Allah, il y ait une différence telle que celle qu'il y a entre les cieux et la terre. Il se peut que celui que tu diminues et que pour toi n'a pas de valeur, auprès d'Allah Ta'ala, il a beaucoup plus de valeur que toi. Les salafs disaient, rahimahumullah, lorsque tu vois quelqu'un de plus vieux que toi, dis il est meilleur que moi, parce qu'il a plus adoré Allah Ta'ala que moi. Et lorsque tu vois quelqu'un de plus jeune que toi, dis il est meilleur que moi, parce qu'il a moins désobéi à Allah Ta'ala que moi. Et si jamais un jour, tu regardes un musulman, et au fond de toi tu dis, moi je suis meilleur que lui, et ben sache que t'es pas du tout dans la guidée du prophète, alayhi salatu wassalam. Parmi la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il travaillait dans sa maison, c'est-à-dire, Imam Ahmed y rapporte de Urwa ibn Zubayr, le neveu de Aisha radiallahu anha, il dit, un homme il a posé la question à Aisha radiallahu anha, ya Aisha, qu'est-ce que le prophète faisait chez lui? Alors Aisha radiallahu anha dit, il raccommodait ses sandales et il cousait ses vêtements. Et il faisait dans sa maison ce que vous faites dans votre maison. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que nous on fait ça? Nous on va dire aux gens direct, repasse-moi ça, lave-moi ça, prépare-moi ça. Jamais le prophète, alayhi salatu wassalam, il a chargé quelqu'un dans sa famille de faire une chose le concernant. Il s'en occupait lui-même. Plus que ça même. Il était lui au service des gens de sa famille. Comme le Bukhari rapporte qu'on a posé la question à Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce que le prophète faisait chez lui? Alors Aïcha radiallahu anha disait, il était au service de sa famille. Il était au service de sa famille, il travaillait pour eux. Et lorsque c'était l'heure de la prière, il partait faire la prière. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ne faisait pas ça parce qu'il avait du temps à perdre. Non, c'était pour concrétiser la servitude à laquelle on a fait référence au début de la khutbah. Al-Ubudiyyatu. L'Uluhiyatillahi Azza wa Jal. Ce que je vais vous donner, c'est un aperçu léger de la modestie du prophète, alayhi salatu wassalam. Maintenant, on vous donne un aperçu de la modestie chez les meilleurs des êtres humains après les prophètes, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, rahimahumullah. On a recueilli quelques-unes de leurs paroles afin de vous faire savoir à quel point la modestie chez eux était un comportement noble. Urwa ibn Zubayr, il a vu une fois Omar ibn Khattab radiallahu anhu qui portait sur ses épaules une jarre d'eau, une grosse jarre. Alors Urwa, il va Omar lui dit, ah Omar, ô commandeur des croyants, il ne convient pas que quelqu'un comme toi fasse une chose comme celle-ci. Alors Omar radiallahu anhu, il a dit, lorsque les groupes des différentes tribus m'en sont parvenus pour me manifester leur écoute et leur obéissance, j'ai ressenti en moi une fierté. Alors, je me suis imposé de porter ça pour casser mon œuf, pour casser mon âme, pour ne pas la laisser s'agrandir en moi-même. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait, savez-vous ce qu'est la modestie? La modestie est que lorsque tu sors de chez toi, tu ne passes pas près d'un musulman sans que tu ne penses qu'il est meilleur que toi. C'est ça la modestie. Al-Bishr ibn al-Harith, il disait, il n'y a rien de meilleur à ce qu'un riche s'assoie devant un pauvre. Al-Shafi'i, rahimahullah, il disait, la vraie modestie est que tu te mettes au niveau de quelqu'un qui est moindre que toi dans les bienfaits d'Allah, qui a moins que toi, pour que tu lui fasses savoir que c'est pas parce que tu possèdes plus que lui que tu es meilleur que lui. Il y a un homme orgueilleux qui est passé de près de Malik ibn Dinar et il avait une démarche orgueilleuse. Alors, Malik rahimahullah, il lui dit, ne sais-tu pas que cette démarche, Allah la déteste, sauf entre les deux rangs, yani pendant la bataille, pour mettre en colère les mécréants et les ennemis. Alors, l'homme il lui répond l'orgueilleux, tu sais pas je suis qui moi? Tu sais pas je suis qui moi? Alors Malik lui répond, si je sais je suis qui. En premier, tu étais une goutte de sperme dégoûtante. Et à la fin, tu deviendras un cadavre pourri. Et entre les deux, tu portes dans ton ventre des salissures. Alors l'homme, il a baissé la tête. Et il s'est rabaissé. Et il a dit à Malik, Wallahi, tu m'as vraiment connu tel que je suis. Et il y a un groupe d'hommes qui ont été voir Maïmoun, là, qui ont été voir Muawiya ibn al-Aswad, afin qu'il invoque Allah Ta'ala pour eux. Alors il a dit, Ya Allah, fais-moi miséricorde à moi, par eux, et ne les prive pas eux, à cause de moi. Et il y a un homme qui a dit à Maïmoun ibn Mihran, tant que tu seras parmi les gens, ils seront bien. Alors Maïmoun, il a rejeté, il lui a dit, retourne d'où tu viens. Les gens seront dans le bien tant qu'ils craindront leur Seigneur. Et il y a un homme qui a dit à Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, oh le meilleur des gens et le fils des meilleurs des gens. Alors Abdullah lui a répondu, je ne suis ni le meilleur des gens, ni le fils des meilleurs des gens, je suis un serviteur des serviteurs d'Allah. J'espère Allah et je le crains. Wallahi, vous ne cesserez de flatter les gens jusqu'à ce que vous les fassiez courir à leur perte. Al-Marwazi l'a dit l'imam Ahmed rahimahullah, j'espère que dans toutes les villes, on invoque Allah Ta'ala pour toi. Alors Al-Shafi'i a répondu, Ya Aba Bakr, lorsque la personne se connaît elle-même, la parole des gens ne lui sont pas utiles. Les paroles des gens ne lui sont pas utiles. Voilà comment ses pieux prédécesseurs ont compris, appliqué et vécu la modestie. Malgré le fadl, malgré le prestige qu'ils avaient sur les gens, par leur science, par leur piété et par leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, jamais ils se sont mis au-dessus des gens. Le mutakabbir, l'orgueilleux, même s'il se voit au-dessus des gens, wallahi, auprès d'Allah, il n'a aucune valeur, il est au dernier des degrés. Quant au modeste et au humble, même si les gens le voient comme étant sans valeur, eh bien auprès d'Allah ta'ala, il a une valeur immense. Le poète, il a dit, sois modeste, tu seras comme l'étoile qui brille à la surface de l'eau alors qu'elle est basse. Et ne sois pas comme la fumée qui s'élève dans le ciel alors qu'elle est mauvaise. Ah, la fumée s'élève dans le ciel, mais elle s'évapore et disparaît, et en plus de ça, elle est mauvaise. Alors que l'étoile, son reflet qui scintille sur l'eau, eh ben elle brille, même si elle est en bas, même si tu la regardes de haut. Le modeste, il se recueille et il se rabaisse devant son frère. Et lorsqu'il fait ça et qu'il goûte à ce goût magnifique, à cette saveur exquise, alors il déteste l'orgueil. Et il déteste tout ce qu'il ramène à l'orgueil. Et il aime les modestes. Et il a de la miséricorde envers eux. Et en plus de ça, Allah Ta'ala, il l'élève en degré dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Allah Ta'ala le rapproche de lui et l'aime et lui fait honneur. Et avant de finir, juste concernant, je dis en français seulement parce que ça ne concerne pas, en arabe, concernant une des khutbahs que j'avais fait pendant la crise en Palestine, donc j'ai appris que certains frères avaient mal compris ce que j'avais dit dans la deuxième khutbah concernant la Palestine. Et qu'on m'a attribué comme quoi j'avais critiqué les gouverneurs sur le minbar. Première chose, la khutbah, elle est sur internet, je vous invite à aller l'écouter vous-même. Deuxième chose, plutôt que de dire ici et là, le frère s'est trompé. Marhaban, mon frère, viens me voir. Dis-moi, ya akhi, t'as fait une erreur. Montre-moi l'erreur. Et puis, les nerfs, on revient, pas de problème. Nous, on parle de modestie. Et parmi la modestie, ne pas éprouver de honte ou de pudeur à dire aux gens, je me suis trompé. Même si devant moi, il y a 2 milliards de personnes, je dirais, je me suis trompé. Hein? Khayrou, kullu bani adam khatta, wa khayrou khatta'in at-tawwabun. D'accord? Première chose. La seconde, wallahi, ce jour-là, où j'ai parlé justement de ça, il y a un frère qui est venu me voir à la fin de la khutbah. Il n'est pas là. Il m'a dit quoi? Il est venu me voir, hein. Il m'a pris à part, il m'a dit arrête de défendre les gouverneurs. Arrête de les défendre. J'arrive, moi je défends ceux qu'il y a à défendre avec le Coran. Et je rétablis la vérité et j'enlève la culpabilité qu'on leur met sur le dos. Et ce frère, depuis ce jour-là, il vient plus ici. Regarde, subhanallah. Il est venu me critiquer le fait que je défende les gouverneurs sur le minbar, mais il est venu me voir. Alors qu'il n'était pas d'accord avec moi. Et les autres qui ont mal compris, parce que je ne l'ai pas dit, alhamdulillah, j'ai réécouté la khutbah et les frères étaient avec moi, ils le témoigneront. Et écoutez-la vous-même, vous le verrez vous aussi. Et les frères qui ont mal compris, au lieu de venir me voir, il y a je crois que tu t'es trompé, non, ils se font entre eux, eh, les frères, faites attention, souffle, ils partent sur les gouverneurs. À la kulli hal, comme un frère m'a dit, du jour au lendemain, t'es une étoile, le lendemain, t'es une bouse de vache. Nous, on ne veut pas de votre respect ou bien de votre admiration, on ne veut rien du tout. Et wallah, si ce n'était pas le besoin, hein, si ce n'était pas le besoin, jamais j'aurais mis mes pieds là-dessus. Jamais j'aurais mis mes pieds là-dessus. Et je vous aurais parlé. Moi, je suis comme le tayammum. Quand il n'y a pas d'eau, on fait du tayammum. Et quand on retrouve de l'eau, le tayammum ne marche plus. D'accord? Malheureusement, il n'y a personne. Si un frère vient me voir demain, il me dit, Akhi, moi je suis capable plus que toi, marhaban mon frère, fadal. Il n'y a aucun problème. Avec plaisir, je m'assois là devant toi et je t'appuie de moi aussi. Avec plaisir. Mais plutôt que de ne rien faire et critiquer, ou bien donner aux gens des erreurs qu'ils n'ont même pas faites, wallahi ajib. Wallahi ajib. Et un frère, il m'a dit, fais attention, si jamais tu parles de ça, peut-être les gens vont croire que tu viens à ton propre secours. Wallahi, j'ai pas à mon secours. Allah, il est témoin. Faqat, on remet les choses à leur place. Après, si les gens ils veulent dire ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا منقادين لأمرك. اللهم اجعلنا متواضعين لك ولعبادك. اللهم اجعلنا متواضعين لك ولعبادك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأدري أنه لا ينبغي للخطيب أن يدعو لنفسه على المنبر بل أقول شيئا. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يطهر قلوبنا وأن يطهر نياتنا وأبصارنا وأسماعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.